RFI. C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Igor Strauss.
Bonjour, bienvenue. Vous le savez maintenant, tous les mercredis, des journalistes des différents services de RFI et d'autres médias engagés dans la défense de l'environnement se réunissent en club pour partager et débattre des sujets qui les ont marqués pendant la semaine. L'occasion également de découvrir des initiatives d'entrepreneurs à la fibre écolo et les vidéos tournées par les membres du réseau Hip-Hop, le réseau des petites ondes participatives. Au menu cette semaine et dans le désordre, en France, une recrudescence de dingue en métropole, et si c'était une des conséquences du réchauffement climatique, la désertification, elle progresse partout dans le monde, un appauvrissement des sols qui remet en cause la sécurité alimentaire. Pourtant, eh bien, des solutions existent. Le climato-scepticisme, il a le vent en poupe dans les partis d'extrême droite. Remettre en cause la parole des scientifiques et des experts du climat fait peut-être gagner quelques voix, mais c'est une tragédie pour la planète et notre humanité. Et enfin, eh bien, l'eau de la Seine sera-t-elle assez propre pour les épreuves aquatiques des Jeux Olympiques qui approchent à grands pas ? Mystère, mystère. Voilà pour le programme. Bienvenue au club.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Et aujourd'hui, dans le club, nous accueillons Alexandra Renard, grand reporter au service environnement de France 24. Bonjour Alexandra.
Bonjour Igor.
Vous connaissez le principe de cette émission. On commence avec votre étonnement de la semaine et une bonne nouvelle hein, du côté du front climatique. Il est possible de réduire les émissions de gaz à effet de serre, moins 5,8% entre 2022 et 2023 en France. C'est ce que révèle aujourd'hui un rapport du CITEPAS. C'est l'organisme chargé de recenser nos émissions, Alexandra.
Oui, c'est ça. C'est un organisme qui est indépendant, à vocation scientifique. Il quantifie, identifie et expertise l'impact de nos activités humaines sur le climat et la pollution atmosphérique. Et selon ce rapport, tous les grands secteurs émetteurs, alors on parle de l'industrie énergie, industrie manufacturière, bâtiment, agriculture et même transport, ils participent tous à cette baisse. Ce n'est pas la première fois qu'on observe une forte diminution des émissions en France. C'est déjà arrivé en 2020. Rappelez-vous, c'était moins 9% avec la crise du Covid, évidemment. Et puis aussi en 2014, moins 6,6% grâce à un hiver très doux. Mais ce qui est inédit, c'est que tous les grands secteurs émetteurs simultanément baissent, alors que la France n'a pas connu de crise économique majeure.
Alors, comment expliquer ces résultats positifs pour la planète, finalement ?
Alors, il s'explique notamment par la hausse de la production d'électricité bas carbone et la baisse de la consommation d'électricité, mais ce sont aussi les comportements de sobriété de vous, de moi, des ménages, des entreprises qui font la différence. Des éco-gestes qui sont souvent liés au prix de l'énergie, certes, mais aussi à une certaine prise de conscience du dérèglement climatique. D'après le CITEPAS, les encouragements politiques aussi boostent cette tendance, avec plus de production d'énergie renouvelable, plus d'aide à la rénovation thermique des bâtiments et plus de voitures propres. Le problème, c'est que l'État, dans ses calculs, compte sur les forêts pour retirer des millions de tonnes de CO2 de l'atmosphère. Mais les incendies, les parasites, les sécheresses et aussi la reforestation, souvent réalisée avec une seule espèce d'arbre, les fragilisent. Et donc les forêts françaises, il faut le rappeler, elles captent seulement deux fois moins de CO2 que dans les années 2000, malheureusement.
Alexandra, à vos côtés, Raphaël Morand du service Amérique latine de RFI. Hola, compadre.
Hola, Igor. Que tal?
Bonjour, Igor. Bien et tout.
Très bien.
Raphaël, c'est votre étonnement, c'est la ministre autrichienne de l'Environnement, Léonore Gewessler, qui a retenu votre attention avec son vote surprise à Bruxelles sur la loi européenne pour la restauration de la nature.
Oui, à la rédaction Amérique latine de RFI, on regarde, on suit de près ce qui se passe au niveau européen, ces législations vertes, pionnières, hein, il faut le dire, à l'échelle mondiale. Et effectivement, cette semaine, un règlement européen a été voté. Il prévoit une série de mesures ambitieuses pour rétablir les écosystèmes dégradés en Europe. C'est la loi de la restauration de la nature. Le but, c'est aussi de faire revenir les poissons dans les cours d'eau, de stopper le déclin des abeilles essentielles à la pollinisation. Un texte qui a été salué par les défenseurs de l'environnement, mais qui a été combattu par certains secteurs du monde agricole et par les conservateurs européens aussi. Et en fait, il manquait un seul pays pour faire approuver le texte. Et c'est l'Autriche qui a fait basculer en fait la majorité pour l'adoption. C'était totalement inattendu puisque la ministre autrichienne écologiste qui a voté pour ce texte était en fait contre la ligne de son gouvernement, contre la ligne du Premier ministre conservateur autrichien sur ce texte. Elle a considéré en son nom, en son âme et conscience, qu'il était important de voter pour ce texte car il est essentiel, selon ce qu'elle a dit, pour laisser une planète plus habitable aux générations futures.
Et ça fait donc deux bonnes nouvelles avec celle qu'a rappelé Alexandra. En face de vous, Stéphanie Schuller du service environnement de RFI. Guten Tag, Stéphanie.
Guten Tag, Igor.
Ça va bien ?
Ouais, ça va très bien.
Votre étonnement à vous, Stéphanie ?
C'est pas forcément une bonne nouvelle, malheureusement. Bon, c'est pas tellement une
bonne
nouvelle.
On peut pas avoir que des bonnes nouvelles.
Non, on peut pas avoir que des bonnes nouvelles. Alors, moi, cette semaine, je suis tombée sur un article dans la revue Science consacré à la surmortalité des oursins. Et peut-être que vous vous souvenez, en été l'année dernière déjà, on parlait des centaines, voire de milliers d'oursins trouvés morts sur les plages de la Réunion. Et pourtant, le phénomène avait commencé en 2022 déjà, dans les Caraïbes. Il a traversé l'Atlantique pour se retrouver en Méditerranée, puis la mer Rouge était à son tour affectée, et ensuite l'océan Indien. À cause de cette propagation rapide, les scientifiques parlent maintenant d'une véritable pandémie qui touche ces oursins.
Et est-ce qu'on connaît la cause de la mortalité de ces oursins, Stéphanie ?
Alors, en effet, il ne s'agit pas d'une bactérie ni d'un virus, mais probablement d'un parasite, un organisme unicellulaire de la famille des ciliés. Ce parasite est déjà connu pour provoquer certaines maladies chez d'autres animaux marins, comme les requins par exemple, mais jamais encore les oursins. Alors pour l'instant, les chercheurs ne comprennent pas la raison pour laquelle ce parasite s'attaque maintenant massivement aux oursins. En revanche, on pense comprendre comment le parasite se propage si rapidement à travers les océans, parce que c'est quand même des toutes petites cellules. C'est à l'aide du transport maritime que ces organismes unicellulaires voyagent. Et là, toutes les craintes en ce moment se concentrent sur la probable prochaine destination, à savoir la Grande Barrière de Corail en Australie.
Oui, parce que bien les oursins sont indispensables aux coraux.
Tout à fait. Les oursins mangent les algues et les empêchent donc d'envahir les récifs. C'est important pour permettre la photosynthèse. En fait, les oursins, si vous voulez, Igor, sont un peu comme des tondeuses de gazon des récifs coralliens. Donc, face à la menace, les chercheurs appellent maintenant à récupérer les oursins en mer et à les garder en captivité dans des aquariums. Bon, je vous rassure quand même, des aquariums professionnels. Ne prenez pas des oursins chez vous à la maison. Donc, de les captiver et de les mettre dans les aquariums pour pouvoir les réintroduire une fois la pandémie finie. Ça vous donne quand même une idée de la gravité de la situation. Et il faut faire vite apparemment parce que cette fenêtre de pouvoir les récupérer vivants se referme rapidement.
À vos côtés, Stéphanie Pauline Glaise, chef adjointe du service environnement de RFI. Bonjour, boss.
Bonjour, Igor.
Hein, allez, on fait moins les malins quand c'est la chef. Hein. Pauline, votre étonnement, il est très poétique, des plantes qui allaitent leurs jeunes pousses.
Oui, c'est une orchidée assez commune au Royaume-Uni. Alors évidemment, l'allaitement, c'est imagé. On vient en tout cas de trouver la clé d'une énigme qui datait. Elle interpellait déjà depuis l'époque de Darwin. En fait, cette orchidée, elle produit des toutes petites graines qui s'envolent donc un peu partout avec le vent. Et pourtant, donc en fait, comme elle s'envole un peu partout, on devrait voir des fleurs disséminées un peu partout. Et pourtant, elles poussent souvent en touffe, ensemble, en famille en fait. Et des scientifiques viennent de trouver le pourquoi du comment. En fait, certaines orchidées fournissent des nutriments aux jeunes plants via des connexions fongiques, donc via un réseau de champignons en fait. Et les fleurs mères, si l'on peut dire, donne un avantage aux jeunes pousses par rapport aux plantes voisines, car elles aussi, elles veulent les mêmes ressources. Et donc, les plantes mères envoient leur sucre aux petits plants. Les co-auteurs de l'étude estiment qu'il y a une forme de culture parentale chez cette orchidée.
Voilà pour les étonnements de la semaine et on passe au débat.
Le club de C'est pas du vent sur RFI. Des questions, des témoignages, des idées. Écrivez-nous à c'est pas du vent@rfi.fr.
Alexandra Renard, on commence avec vous. L'Europe doit se préparer à une augmentation des infections transmises par les moustiques tigres. Cette espèce en pleine recrudescence peut transmettre plusieurs maladies potentiellement mortelles, comme la fièvre jaune, Zika ou la dengue. En France, nous sommes en juin et nous avons déjà battu un record des cas importés de dengue en France métropolitaine, à cause de cet insecte tigré.
Et oui, d'après Santé publique France, au moins 2666 personnes ont importé la maladie en métropole depuis le mois de janvier. C'est du jamais vu, c'est 15 fois plus que l'an dernier pour la même période. Des cas de dengue importés, c'est quoi ? Ce sont des personnes qui vivent en France, elles ont voyagé à l'étranger, souvent de retour des Antilles françaises ou Amérique du Sud. Elles se sont fait piquer sur place par des moustiques tigres infectés, ont contracté la maladie et sont revenues avec. C'est le cas de cette jeune femme que nous avons rencontrée à Martigues. Nous filmions une équipe de démoustication en intervention chez elle.
On est parti en vacances à l'île Maurice, on est rentré le 1er mai et du coup c'était un jeudi. Et la semaine d'après, à partir du jeudi, j'ai commencé à avoir des symptômes grippaux en fait. Hein. C'était juste courbature, fièvre qui m'ont achevé pendant 4 jours. Et aujourd'hui j'ai encore quelques symptômes, j'ai plus de fièvre ni quoi que ce soit, mais j'ai beaucoup de boutons partout sur les mains et qui me font ultra mal. On avait acheté du répulsif, même les bracelets anti-moustiques, mais on l'a pas du tout utilisé parce qu'on avait pas, enfin on n'en a pas vu sur place. Je pourrais même pas vous dire où est-ce que je me suis fait piquer, je ne sais absolument pas.
Alexandre, est-ce que la dengue se transmet entre humains ?
Alors c'est une question qui revient souvent, pourtant ça fait quand même plusieurs années que le moustique tigre est sur place. Non, elle ne se transmet pas d'être humain à être humain, elle se transmet uniquement par piqûre de moustique tigre. C'est important de le dire, si les personnes contaminées sont piquées par un ou des moustiques tigres, ils la transmettent aux autres personnes qu'ils piqueront par la suite. C'est ce qu'on appelle des cas autochtones. La grande majorité des personnes infectées sont asymptomatiques, c'est-à-dire qu'on ne ressent absolument rien. Mais la dengue est aussi parfois mortelle. Et les moustiques tigres, ce sont des coriaces. Hein. Et une fois infectés par un ou des virus, parce qu'ils peuvent transporter plusieurs virus à la fois, ils peuvent le transmettre tout au long de leur vie, c'est-à-dire un mois en moyenne. Il est donc recommandé aux personnes qui, comme cette femme, sont contaminées, de s'isoler avec climatisation et aussi de mettre du répulsif. Alors, dans le jardin de cette femme, les exterminateurs ont trouvé malheureusement des moustiques tigres adultes et aussi sous forme de larves, donc il y a un risque de propagation. Écoutez Pascal Eberhardt, c'est un agent de démoustication qui était sur place, donc il travaille pour le littoral méditerranéen.
Cette année, avec les différentes épidémies que nous avons, donc notamment au Brésil, un taux élevé de cas de dengue dans les Antilles, etc., effectivement, on se dirige vers une année quand même qui sera assez riche. Là, on parle de 3-4 cas par jour de dengue importée, donc c'est quand même une... La saison commence fort. Si ça avait été une autre espèce de moustique classique autochtone de notre région, qui ne transmettent pas de maladie, on n'aurait pas déclenché d'intervention. Là, présence de moustiques tiques, moustiques vecteurs, présence de personnes malades provenant de l'île Maurice qui avaient la dengue, donc possibilité qu'il y ait un risque d'épidémie, donc intervention.
Intervention, ça veut dire quoi ? Alors d'abord, dans un premier temps, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait le tour du jardin. Ils ont retourné absolument toutes les petites coupelles, les pots, les bâches, pour vérifier qu'il n'y avait pas d'eau, parce que les moustiques tiques sont capables de pondre jusqu'à 200 œufs tous les 15 jours dans un simple bouchon d'eau. Donc dès qu'il pleut, la recommandation, c'est de retourner absolument tout chez soi. Le lendemain de notre passage, ils ont passé un puissant insecticide qui a été projeté dans le jardin de cette femme, dans tout le quartier. Donc là, il faut être à l'intérieur des maisons, volets fermés. Et ensuite, c'est un véhicule qui transporte un insecticide très puissant et toxique et qui circule dans tout le quartier de la personne sur un rayon de 150 mètres. 150 mètres pourquoi ? Parce que c'est le vol que peut faire de manière maximale un moustique tigre. C'est un insecte qui ne vole pas très bien. Par contre, il est silencieux, il est tigré et il agit le jour, contrairement aux autres moustiques. Donc, il est particulièrement nocif. Il impacte ce produit qui est donc projeté dans les rues, dans les quartiers, peut impacter à la fois la nature et surtout rendre les insectes résistants, ce qui est un problème.
Et ça, c'est un vrai problème. Est-ce que alors, le moustique tigre est arrivé en France en 2004. Où en est-on aujourd'hui ?
Oui, effectivement, il est arrivé en 2004 par le sud. Aujourd'hui, malheureusement, il est dans toutes les régions de France, dans toutes les régions de l'Hexagone. Et il continue sa progression vers le nord. Il est installé dans maintenant 13 pays européens. C'est notamment le dérèglement climatique qui l'aide à coloniser si rapidement. Et comme beaucoup d'espèces exotiques invasives, il faut apprendre désormais à vivre avec. C'est-à-dire qu'il ne repartira plus de France. Il y restera. Il restera aussi en Europe. En France, les autorités sont particulièrement en alerte en ce ce moment parce qu'à l'approche des Jeux Olympiques, vous savez qu'il y aura un grand brassage massif de population et donc potentiellement beaucoup de maladies à l'intérieur de chaque être humain. Il faut rappeler quand même que chaque année dans le monde, 20 000 personnes décèdent de la dengue et en majorité ce sont malheureusement des enfants. On s'est renseigné aussi pendant ce reportage pour savoir s'il existait, parce qu'on nous pose souvent la question des vaccins. Il en existe quelques-uns, mais ils sont utilisés vraiment de manière très très limitée. C'est uniquement dans les pays où l'infection est endémique pour les 6-45 ans et il faut avoir été déjà testé positif à la dengue.
Merci Alexandra Renard. Je vous propose de marquer une première pause en musique avec Baby, c'est vous de Bon Entendeur qui a remixé la voix de Sylvie Vartan. C'est vous de Bon Entendeur avec la voix de Sylvie Vartan, un artiste de la playlist RFI que vous pouvez retrouver sur vos plateformes préférées.
Le club de C'est pas du vent sur RFI. Pour nous écrire, c'estpasduvent@rfi.fr.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI, aujourd'hui c'est la version club de l'émission avec Alexandra Renard de France 24, Raphaël Morand, Stéphanie Schuller et Pauline Glaise de RFI. Et vous le savez, chaque semaine, eh bien, nous mettons en avant un vidéaste amateur du réseau Hip-Hop pour Petites Ondes Participatives, un réseau qui recueille des témoignages de citoyens partout sur le continent. Voici la chronique de Caroline Fillette.
Aujourd'hui, partons pour la commune de Nkolafamba au Cameroun, à la rencontre de Jacqueline Yumbi et sa famille. Dans cette vidéo hip-hop, nous voyons les maisons du quartier construites de manière anarchique sur le point de s'effondrer en raison des glissements de terrain. Un reportage hip-hop signé Eunice Lucrèce Nouchaya, intitulé « Quand la terre se dérobe sous nos pieds », dont nous allons écouter un extrait.
Oui, Jacqueline, je suis mariée, mère de 5 enfants. Et ma profession, je suis commerçante. Et trouver le terrain à Yaoundé n'est pas d'abord facile. Et il y a des endroits que si tu trouves même c'est cher, il n'y a pas assez d'argent parce que nous sommes des débrouillards. On se bat pour en avoir le peu qu'on peut avoir. Et quand on trouve le terrain moins cher ici, c'est sur cet endroit que nous avons eu la possibilité d'être installés. C'est le danger pendant les saisons pluvieuses parce que quand il pleuvait tellement, nous réalisons que la terre devient de plus en plus faible, de plus en plus faible. Et la manière dont nous sommes installés, les constructions sont d'abord bizarres, comme vous voyez. Donc nous-mêmes, on ne sait même pas comment faire. Donc on se rend déjà compte que c'est très, très dangereux pour nous d'être là. Ici, nous sommes près des marécages, tout près des marécages ici. Mais nous vivons des difficultés de l'eau. Et tous les temps, nous sommes malades. La malaria, la typhoïde, tous les jours. Mes enfants ne peuvent pas faire 2 semaines sans tomber malade. Nous souffrons ici tellement avec les maladies chaque jour. Et nous quittons d'ici pour chercher de l'eau à boire jusqu'en haut là-bas, au forage, avant de pouvoir trouver un peu de l'eau.
Bonjour Eunice. Alors on voit dans cette vidéo cette femme qui a peur que sa maison, comme celle de ses voisins et voisines, soit victime d'un éboulement. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce sujet ?
J'ai été premièrement motivée parce que c'est en fait mon quartier. C'est quelque chose que je côtoie au quotidien quand je me balade dans le quartier. Et à un moment, je me suis demandé, surtout que je connais cette dame un peu personnellement, et je me suis demandé comment est-ce qu'elle vivait une telle situation. Je me suis dit, forcément, c'est stressant, forcément, c'est dangereux. Et un jour, quand je passais, j'ai entendu des gens dire qu'en amont, il y avait déjà eu des glissements. Et je me suis inquiétée, en fait, pour elle. Et je me suis dit, peut-être que ce serait l'occasion d'aller lui demander qu'est-ce qu'elle compte faire, comment elle compte gérer la situation. Et quand le concours hip-hop s'est présenté, je me suis dit, je vais utiliser ce canal-là pour faire ça.
Et cette vidéo a été primée ?
Oui, il a été retenu comme finaliste au concours hip-hop dans la catégorie jeune réalisatrice en 2021.
Félicitations. Et pour revenir au sujet, quelles sont les causes de ces éboulements ?
Déjà, il faut noter que Yaoundé, c'est une ville, on dit la ville aux sept collines, donc c'est une ville avec beaucoup de collines. Le relief naturel, on ne peut pas l'en vouloir, c'est comme ça qu'on l'a trouvé. Mais maintenant, il y a aussi l'action de l'homme et beaucoup de Camerounais construisent de façon très anarchique, sans aucun respect des zones à risque et même sans aucun respect en fait des règles de construction. Il n'y a pas de plan et même quand il y a des plans, parfois ce n'est pas respecté. Il n'y a pas forcément un suivi de tout ce qui doit être fait. Et finalement, on se retrouve avec des gens qui construisent sur des versants de collines sur lesquels on ne devrait réellement pas construire. Et après, ça cause ces dégâts qu'on voit un peu partout. Et c'est vraiment un fait très, très poussé à Yaoundé. Les glissements de terrain sont nombreux. En 2023, je crois, on avait le cas de l'éboulement de Bankolo, où des gens sont morts. Donc, c'est un problème vraiment présent à Yaoundé. On ne peut pas parler de Yaoundé, des difficultés de Yaoundé, sans parler de glissements de terrain.
Merci, Eunice.
Et merci à vous, Caroline Fillette.
RFI.
Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Planeta Verde.
Es la migración más importante de insectos.
Barca mărsa, ce că sunt ceva.
C'est pas du vent.
Ande ne tanki фами вонде амдари ва валата де горе леди низ.
Добрый день, вы слушаете подкасты международного французского радио RFI.
Raphaël Morand, vous êtes journaliste au service Amérique latine de RFI. Les Jeux olympiques de Paris approchent à grands pas. Des tribunes et des installations sportives commencent à être installées un peu partout dans Paris. Mais eh bien, il y a encore une grosse incertitude. L'eau de la Seine sera-t-elle assez propre pour les épreuves aquatiques ? Réponse ? Eh bien, pas encore. Et pourtant, la France a investi des sommes colossales pour dépolluer la Seine, Raphaël.
Oui, le fleuve qui traverse Paris ont été investis 1,4 milliard d'euros. C'est la somme qui a été dépensée par la France pour dépolluer la Seine et son affluent, aussi la Marne, avant les Jeux Olympiques. Alors, il s'agit de rendre la Seine baignable pour accueillir les épreuves de triathlon, de natation marathon et de paratriathlon. Parce qu'actuellement, les eaux de la Seine sont souvent trop chargées en bactéries pour qu'on s'y baigne. On s'expose à des gastroentérites, par exemple. C'est surtout lorsqu'il pleut. Les eaux de pluie saturent en fait les réseaux d'assainissement en région parisienne. Ces eaux se mélangent aux eaux domestiques usagées. Et donc, le trop-plein est déversé dans le fleuve. On ne peut plus s'y baigner. Alors, il y a des travaux pharaoniques qui ont été entrepris, je le disais au début. Notamment la création d'un immense réservoir de rétention d'eau de pluie dans Paris. Justement pour éviter les débordements de pluie en cas d'orage. D'ailleurs, le réservoir a commencé à fonctionner cette semaine. Il y a eu des gros orages à Paris. Il a une capacité de 20 piscines olympiques, tout de même. Il y a également des usines de traitement des eaux autour de Paris qui ont été dotées de nouveaux systèmes de purification par ultraviolet. J'en ai visité une la semaine dernière qui a été inaugurée. Reportage à venir dans C'est pas du vent d'ailleurs dans quelques semaines. Et aussi, on a raccordé des péniches, les péniches de la Seine au système d'égout.
Il y en a beaucoup des péniches, voilà, donc ça c'est pas mal.
À Paris, autour de Paris, il y a beaucoup de gens qui vivent sur ces péniches. Et jusqu'à maintenant, ces personnes rejetaient leurs eaux usées dans la Seine. Donc elles ont été reconnectées au réseau. Pour là aussi améliorer la qualité de la Seine. Mais comme il a beaucoup plu ces derniers mois, tout cela n'a pas suffi, ces mesures que je viens d'énumérer. Les analyses qui ont été effectuées mi-juin montrent que les seuils de bactéries fécales dans la Seine sont encore trop élevés. Et le débit de la Seine aussi est trop élevé. Il a trop plu, il y a trop de courant pour organiser des compétitions sportives.
Mais alors du coup, est-ce qu'il y a un plan B pour les Jeux Olympiques, Raphaël ?
Pas vraiment. La mairie de Paris indique qu'en cas de pollution, pollution de la Seine. Il est simplement prévu de reporter les épreuves aquatiques de quelques jours. Mais il n'y a pas vraiment de solution de repli. Les autorités qui gèrent l'assainissement restent quand même confiantes. Elles assurent que le niveau de la Seine va baisser dans les prochaines semaines. Et le mois de juillet, qui est traditionnellement plus sec hein, à Paris, devrait permettre d'atteindre les seuils de qualité requis pour la baignade. Et au-delà, il s'agit aussi de bénéficier de toutes ces installations de purification de la Seine pour créer des zones de baignade à long terme pour la population qui habite en région parisienne, pour le grand public, à partir de 2025.
Espérer qu'il ne pleuve pas en juillet, c'est assez optimiste parce que la météo est assez incertaine par les temps qui courent.
Voilà.
On l'a bien vu au mois de juin, des pluies incessantes. C'est un pari osé, Raphaël, quand même.
Tout à fait. Et pour l'anecdote, eh bien, la maire de Paris, Anne Hidalgo, assure qu'elle va se baigner dans la Seine en juillet. Elle avait déjà promis de le faire en juin et elle ne l'a pas fait. Donc on verra si les conditions le permettent dans quelques semaines.
Ça, c'est un truc des politiques. Promettre de se baigner dans la Seine, on se souvient tous évidemment de Jacques Chirac, alors maire de Paris. Emmanuel Macron, je crois aussi, président de la République, a dit qu'il se baignerait lui-même dans la Seine. Vous voulez réagir? Ça vous fait réagir? Non? Aucune réaction? Pauline?
Simplement pour dire qu'on espère, les organisateurs espèrent qu'il ne pleuve pas trop pour pouvoir organiser cette compétition. Et en même temps, il y a aussi un organisme aujourd'hui qui s'inquiète des risques de chaleur et de l'impact que ça pourrait avoir avec toute cette foule à Paris, une ville où il y a un effet îlot de chaleur très important. Donc il faudrait un entre-deux dans l'idéal pour les organisateurs. On verra ce qui va se passer.
Ça dépend malheureusement pas de nous, mais uniquement de la météo. Allez, on va faire une deuxième pause en musique avec Masego, What You Wanna Try sur RFI. Trying to get that
I'm in Detroit with Khadijah, fighting feelings, growing real. It's organic, hours speed through midnight moments, pouring vehicles, 15 minutes of fame, or 15 minutes away from finding love in the way. For is you someone to wait for? Is he trying to stay on the right? Or is he trying to leave the vibe? Take it to the altar if you wanna slide. Renaissance trap, baby, make a ride. Is he trying to fall for the night? Or is he trying to fall for life? City full of people, you got option, right? Baskin Robbins, baby, what you wanna try? Yeah. What's your flavor? Tell me what's your flavor. What's your flavor? Tell me what's your flavor. It's a wing, bang, bang. What's that symbol slang? Going island, hang. Tell me what's your flavor. I think she want me for my loot. I think she wanna get some food. So thick, the body make a man commute. I think she wanna 15 minutes of fame, or 15 minutes away from finding love in the way. From is you someone to wait for? Is he trying to stay on the right? Or is he trying to leave the vibe? Take it to the altar if you wanna slide. Renaissance drive, baby, make a ride. Is he trying to fall for the night? Is trying to fall for life. City full of people, you got options, right? Baskin Robbins, baby, what you wanna try? What's your flavor? Tell me what's your flavor. What's your flavor? Tell me what's your flavor. It's a wing, bang, bang. What's that symbol slang? Going island, hang. Tell me what's your flavor.
Masego, You Wanna Try sur RFI, et c'est le choix de Victor Hull, le réalisateur de cette émission.
RFI.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Des questions, Des témoignages, des idées? Écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI. Aujourd'hui, c'est la version club de l'émission avec Alexandra Renard de France 24, Raphaël Morand, Stéphanie Schuller et Pauline Glaise de RFI. Chaque mois, RFI met l'innovation à l'honneur et aujourd'hui, eh bien, nous vous présentons un projet aussi ingénieux qu'indispensable. Selon le Fonds mondial pour la nature, l'industrie papetière représente 13 à 15% de la consommation totale de bois. Elle a donc un fort impact en termes de déforestation. Mais notre inventeur du jour a mis au point une méthode de recyclage des feuilles mortes en papier durable. Grâce à sa technologie, eh bien, il est possible de produire une tonne de cellulose qui deviendra du papier à partir de 2,3 millions de tonnes de feuilles mortes, ce qui nécessiterait eh bien, autrement l'abattage de 17 arbres. Et il fait partie des finalistes du Young Inventors Prize décerné dans le cadre du prix de l'inventeur européen 2024. Il a 23 ans, il est ukrainien, vous allez l'entendre à son accent. Il s'est installé en France après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022. Valentin Freshka, c'est son nom, est notre inventeur du jour. Valentin Freshka, bonjour.
Oui, bonjour.
Comment est né ce projet ? J'ai lu que c'est à l'âge de 16 ans, lors d'une randonnée dans les Carpates, que vous avez eu cette idée de réutiliser les feuilles mortes.
J'ai eu l'idée de recycler les feuilles mortes à l'école. Mon professeur de chimie et moi étudions les polymères végétaux. Nous avons essayé de produire du papier à partir de paille et d'herbes en voyant les feuilles comme des matériaux similaires en bois. Et j'ai ramassé des feuilles de chêne près de l'école. Et j'ai obtenu une masse fibreuse que j'ai transformée en papier. C'est le début de ma méthode pour réduire de consommer du bois.
Alors, une fois que vous avez fait le test à l'école, j'imagine que ça doit être compliqué de le faire au niveau industriel. Ça demande un savoir-faire, une technologie. Comment vous avez réussi à faire de la pâte à papier avec des feuilles d'arbres ?
Nous devons traiter une grande diversité de matières premières. Et les feuilles peuvent contenir de l'herbe, de branches, de fleurs. Et nous devons séparer les impuretés comme la sable et la pierre, puis laver la masse pour les nettoyer. Et ensuite, nous utilisons une méthode chimico-thermomécanique pour extraire les fibres nécessaires pour produire papier. Le défi principal a été de passer de l'idée de laboratoire à une production industrielle durable, nécessitant innovation et patience.
Alors justement, quel type de papier est-ce que vous fabriquez ? Surtout des cartons d'emballage, c'est ça, parce que ce n'est pas du papier blanc ?
Oui, c'est le papier pour emballage et pour le sac papier.
Est-ce qu'on peut utiliser des feuilles tropicales ? Par exemple, des feuilles d'ananas, de bananier. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait utiliser avec votre procédé ?
Oui, c'est notre plan la prochaine année.
Ah, donc vous souhaitez le développer alors ?
Oui, oui. Cette technologie est très flexible pour produire les différentes fibres faites de différentes feuilles. À l'Europe, au Costa Rica, au Asie, oui.
Valentin Freshka, donc vous avez quitté l'Ukraine après l'invasion par la Russie en 2022. Vous êtes donc arrivé en France. Qu'est-ce que la France vous a permis de faire ? Est-ce que ça vous a aidé dans le développement de votre société ? Ou est-ce que vous auriez pu faire cette société en Ukraine ?
Oui, je suis ukrainien et c'est très important que nous continuions de produire du papier à partir de feuilles grâce à l'externalisation, mais établir une usine complète en Ukraine sera difficile en raison de la guerre, oui. La France, aujourd'hui, nous offre un environnement favorable avec du soutien et aussi gouvernementaux soutenus par des partenaires comme Inouï, Schussberries, Région Île-de-France et aussi LVMH. Nous collaborons avec des entreprises comme L'Oréal, Nestlé, Velleda et Samsung. Et en général, la France nous fournit un environnement stable et de ressources cruciales pour développer notre projet, et ce qui aurait été difficile à réaliser en Ukraine.
Merci Valentin Freshka.
Merci, bonne journée à vous.
du papier avec des feuilles mortes. Stéphanie Schuller, vous êtes du service environnement de RFI. Face à l'urgence climatique, eh bien, les partis d'extrême droite du monde entier adoptent un discours climato-sceptique et opèrent selon la même stratégie pour discréditer, parfois assez vulgairement, la parole des scientifiques et des écologistes.
Oui, c'est tout à fait ça, Igor. On peut parler comme ça. Et d'ailleurs, on peut tout à fait parler de la stratégie et non pas des stratégies, parce que ce
c'est
soit
un peu la même.
Ouais, que ce soit aux États-Unis, c'est justement de ça que je voudrais vous parler, parce que ce soit aux États-Unis, chez les Trumpistes, en Allemagne, chez les membres de l'AFD ou en France, dans les rangs du Rassemblement national, pour ne nommer que ces trois-là, hein, parce qu'il y en a évidemment plein plus, certains points communs se dégagent quand même de toute façon assez évidentes.
Et lesquels, Stéphanie ?
Eh bien, les populistes d'extrême droite. À vrai dire, ne s'intéressent pas vraiment à l'urgence climatique. En revanche, ils y voient une multitude de thèmes qu'ils peuvent instrumentaliser pour atteindre leur objectif, à savoir susciter des sentiments de peur ou alors de colère pour que les électeurs ne fassent plus confiance ni à leur gouvernement ni aux scientifiques. Alors, comment ils font ? C'est ça la question. Premièrement, les populistes d'extrême droite se servent de l'urgence climatique pour se démarquer des partis traditionnels. Leur discours est toujours le même, la protection du climat et de l'environnement, c'est le truc de Bruxelles, c'est le truc des riches, des bobos qui écraseraient avec leurs idées déconnectées de la réalité des vrais gens, les milieux défavorisés, les petits victimes des puissants, en gros. Hein. Donc évidemment, là, on cible directement la question de la justice sociale, n'est-ce pas, en fait, dans la transition qui s'annonce. Donc il y a quand même un terrain favorable pour appuyer là où ça fait mal. Deuxièmement, les populistes d'extrême droite sont de façon générale contre des réglementations étatiques et notamment dans le domaine de l'environnement. Là encore, le discours est toujours le même. La protection du climat est présentée comme autoritaire, serait source d'oppression. Et à l'inverse, les populistes d'extrême droite se racontent souvent comme les défenseurs de la liberté individuelle. On entend souvent des phrases, vous savez, comme « c'est pas le climat qui est en danger, mais notre liberté ». Troisièmement, la lutte contre le changement climatique ne peut réussir évidemment que de façon multilatérale, donc en fait au niveau international, quand on s'y met tous. Et cela va bien évidemment à l'encontre du narratif nationaliste que tous les populistes d'extrême droite ont en commun. Et donc on trouvera donc dans leur discours toujours des éléments qui dénigrent le travail du GIEC et les efforts entrepris durant les COP, par exemple. Et
enfin, Marine Le Pen l'a encore dit, hein, les auteurs du GIEC exagèrent.
Justement.
Elles le martèlent à longueur de meeting, comme si ces scientifiques finalement ne déclaraient pas la vérité, mais... voilà.
C'est exactement ça. Et puis, il y a un dernier point, Igor. Les populistes d'extrême droite sont tous adeptes des solutions simples. Hein, et prétendre qu'il n'y a pas de changement climatique d'origine humaine, eh bien, c'est simple. Alors, tous ces éléments de langage, et ça, c'était très intéressant, j'ai trouvé, sont élaborés par des think tanks qui existent dans chaque pays et qui sont financés par l'industrie des énergies fossiles. Le plus connu est certainement le Heartland Institute aux États-Unis, mais il y en a plein d'autres dans les autres pays, y compris en France. Et tout ce beau monde est interconnecté au cœur d'un réseau mondial qui s'appelle Atlas Network. Je serais presque tentée à vous inviter à aller faire un tour sur Internet, non pas pour vous y inspirer, mais parce que ça vous donne une bonne idée du discours qui est donc financé par l'industrie fossile pour contrer les efforts politiques dans le monde entier pour sauver la planète. Pour
faire ça donne une bonne image de ce que peut être le climato-scepticisme. En France, le Rassemblement national ne nie plus tout à fait l'existence du changement climatique, mais Stéphanie.
Oui, parce qu'il est aussi un peu difficile de faire autrement, Igor, quand même. On a vu tous les derniers et récents sondages... l'ont dit, l'urgence climatique aujourd'hui en France, eh bien, c'est la deuxième préoccupation de la population après l'inflation. Donc en fait, le Rassemblement national ne peut pas vraiment...
avoir des œillères, si voilà. Ça n'existait plus.
Donc tout à fait. Donc en façade, en effet, le parti de Marine Le Pen et de Jordan Bardella fait valoir maintenant une, je cite, « écologie du bon sens » contre ce qui est qualifié d'écologie punitive. Vous avez déjà très certainement entendu ce mot.
Ça revient souvent aussi. Oui,
tout à fait. Et pas seulement d'ailleurs, en fait, chez les gens du Rassemblement national, mais aussi dans la bouche de certains macronistes.
Donc, alors, les ayatollahs du climat, il y en
voilà,
a d'autres.
On y arrive. Et donc, cette écologie punitive qui serait responsable tour à tour Bruxelles, la tyrannie des ONG et les experts du GIEC, comme vous avez dit tout à l'heure, qui exagèrent, hein, selon Marine Le Pen. Mais ce qui semble ripolliner en surface ne l'est plus du tout sur le terrain de l'actuelle campagne pour les législatives. Alors, il y a de nombreux candidats du Rassemblement national qui sont ouvertement climato-sceptiques. Philippe Lothiaux, par exemple, député sortant de la 4e circonscription du Var, qui se dresse sur les réseaux X contre, je cite, la dictature climatique, qui serait selon lui devenue une religion avec ses lois et ses dogmes. Ou alors Julien Odoul, candidat à la réélection, dans l'Yonne, qui dénonce les ayatollahs, justement, les ayatollahs verts qui font avancer leur agenda idéologique en transformant l'Assemblée nationale en colloque de Greenpeace, au lieu de se préoccuper du pouvoir d'achat des Français. Puis Guillaume Bigot, chroniqueur sur CNews et candidat à Belfort, qui affirme, lui, que rien ne prouve scientifiquement que le CO2 émis par l'activité humaine soit la cause de ce changement de climat. Donc, dans ce florilège que le site Conspiracy Watch a réuni, recueilli, vous en aurez peut-être reconnu justement quelques éléments de langage dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, c'est assez affligeant.
C'est affligeant, c'est même consternant, remettre en cause que l'activité humaine, enfin que les émissions de CO2 émises par l'activité humaine ne soient pas la cause du réchauffement climatique. On a beau le dire, le marteler, nous, au service environnement, Pauline Iglaise, on a encore des efforts à faire, hein, c'est ça?
Bah oui,
faut répéter nos messages.
Oui, on a l'impression de répéter tout le temps, mais au final, on voit qu'il faut continuer.
Raphaël Morand, ça vous fait réagir aussi?
Oui, parce que je pense que ce qui se joue là, dans cette rhétorique des droites qu'on peut appeler populistes ou extrême droite, c'est que dans le discours politique, en tout cas en France, peut-être que certains partis ont eu du mal à ce que le message de l'écologie soit associé à un message social. C'est-à-dire que tant que l'écologie ne sera pas en tout cas comprise ou présentée ou mise en pratique avec des mesures sociales très radicales, effectivement, ça apportera des arguments aux partis qui sont climato-sceptiques pour dire que l'écologie est punitive. Donc c'est le vrai défi, je pense, pour les partis politiques ou les formations qui ont des ambitions écologiques, qui sont préoccupées par l'environnement, de ce que les mesures écologiques soient accompagnées par des mesures sociales.
Et c'est d'ailleurs le GIEC qui dit la même chose. Hein. Le GIEC, dans son dernier rapport, dit la transition écologique nécessaire pour endiguer le changement climatique n'est possible que en y ajoutant la justice sociale. Sinon, ce n'est même pas faisable.
Oui, c'est ça, c'est un peu l'évidence. Ce n'est pas, absolument pas punitif. C'est une question pour les générations futures de transformation globale de la société pour un monde meilleur. C'est un peu ça.
Oui.
Je crois qu'on est tous d'accord. Pauline Iglaise, chef adjoint du service environnement, vous souhaitiez nous parler de désertification, puisque lundi, c'était la journée mondiale de lutte contre la désertification. Alors, on en a un petit peu parlé sur cette antenne, mais le sujet est important et il mérite qu'on l'on y revienne. Juste quelques chiffres peut-être pour planter un peu le décor. La désertification provoque chaque année la dégradation de 12 millions d'hectares de terre et affecte 40% de la population mondiale. L'Afrique, bien que particulièrement touchée, n'est pas le seul continent concerné, Pauline. Hein.
Et non, cela n'est pas une évidence, mais en fait, il y a de très très nombreux pays dans le monde qui sont affectés par le phénomène. J'étais assez frappée par le chiffre, d'ailleurs. Alors, je ne vais pas jouer aux devinettes, mais parmi les membres de la Convention cadre des Nations Unies contre la désertification, celle qui organise la COP désertification, eh bien, il y a 169 pays qui sont concernés. Parce qu'il faut rappeler aussi que quand on parle de désertification, en fait, on ne parle pas de l'avancée des déserts. L'empiètement des dunes de sable sur la Terre peut en faire partie. Mais quand on parle de désertification, on parle plus globalement de la dégradation persistante des écosystèmes, des zones arides et semi-arides. Et c'est provoqué par les activités humaines principalement, l'exploitation des sols par exemple et le réchauffement climatique. À cela peuvent s'ajouter aussi des phénomènes naturels comme les vents ou le ruissellement des pluies. Et l'une des régions particulièrement concernées, eh bien, c'est l'Afrique subsaharienne, notamment le Sahel, la Corne de l'Afrique avec la Somalie, l'Éthiopie et l'Érythrée. Si on va plus au sud, Madagascar, l'Afrique du Sud, le Botswana sont également concernés par la dégradation des sols. La liste n'est évidemment pas exhaustive, je ne vais pas vous faire les 169 pays, mais ailleurs dans le monde, la Chine ou l'Australie sont concernés, et le Mexique également, sur une des cartes présentées, il apparaît vraiment en rouge, il est particulièrement concerné par la dégradation des sols.
Concrètement, Pauline, quelles sont les conséquences de cette dégradation des sols justement ?
Eh bien, ça a un impact en particulier sur la production agricole, sur l'élevage, sur les produits forestiers. Or, on parle souvent de régions rurales, donc la désertification contribue à l'appauvrissement des populations, elle augmente l'insécurité alimentaire, car sur les terres abîmées, bien évidemment, elles sont moins productives, voire plus productives du tout, et donc on ne peut plus cultiver. Et puis après, c'est un cercle vicieux, car les populations n'ont parfois pas d'autre choix, en fait, pour se nourrir que d'exploiter une terre qui avait pourtant besoin de repos. Et cela peut être l'une de leurs rares ressources, mais cela accroît encore le risque de désertification.
Et puis quand la terre ne donne plus, on est tenté de rajouter des pesticides, des intrants chimiques, ce qui dégrade encore plus, évidemment, la terre. Ceci dit, ce n'est pas irréversible, Pauline.
Alors, pas toujours, en tout cas. En fait, l'idée, c'est déjà de faire en sorte de ne pas surexploiter les ressources, mettre en place une bonne gestion de l'eau, par exemple, pour éviter l'accélération de la désertification. Une autre mesure pour limiter les risques, ça peut être des systèmes coupe-vent. Alors, système coupe-vent, ça peut être simplement des haies ou des murets, car le balayage des vents, en fait, ça accroît encore le problème. Et puis, on peut essayer de reboiser avec des succès parfois mitigés. Et l'ONG World Vision promeut, elle, plutôt la régénération naturelle assistée. Alors, Kesako, eh bien, c'est une technique mise au point par un agronome australien, Tony Rinaudot. Camille Romain-Desbault, la directrice générale de World Vision France, nous explique le principe.
Il faut déjà observer et écouter les anciens. Y a-t-il eu avant une forêt ou pas ? Et observer. Si on voit déjà des souches, si on voit des rejets d'arbres, il faut les identifier, les sélectionner, les accompagner en les taillant pour leur permettre aux rejets les plus solides en fait, de repartir. C'est également protéger des animaux, protéger du brûlis. Il y a des endroits qui sont malheureusement quand même très abîmés et la technique prendra sans doute un peu plus de temps pour fonctionner. Mais globalement, le principe est le suivant. S'il y a eu des forêts, il peut y avoir une forêt. Et on le voit sur des terres qui étaient quand même fortement dégradées, en Éthiopie notamment, et en Ouganda et au Ghana, les sols se sont régénérés, les forêts sont reparties.
En fait, il s'agit simplement, Igor, de donner un coup de pouce à la nature. L'avantage, selon elle, par rapport au fait de replanter des arbres, d'autres arbres, eh bien, c'est que les végétaux qui se relancent ont déjà un système racinaire. Cela les rend plus résistants en fait, que de remettre de nouveaux arbres qui ont des racines peut-être plus fragiles et qui ne sont pas déjà implantés dans le sol.
Pauline, un mot sur la Grande Muraille Verte, hein, ce projet phare du continent africain qui s'étend du Sénégal à l'ouest à Djibouti à l'est pour stopper l'avancée du désert et lutter contre l'insécurité alimentaire et la pauvreté.
Ouais, c'est une initiative qui avait été lancée par l'Union africaine en 2007. Vous l'avez dit, l'envergure est immense, 8000 km à travers tout le continent pour ériger cette grande muraille verte. Mais à ce jour, environ 18% seulement de l'objectif à 2030 aurait été réalisé.
C'est pas beaucoup parce que les objectifs, c'était 100 millions d'hectares de terre restaurés d'ici à 2030. On est donc loin du compte. Affaire à suivre, on peut peut-être préciser qu'il y aura la COP désertification délégation qui se tiendra à Riyad en Arabie Saoudite en décembre. Parce que, chers auditeurs, il n'y a pas que la COP climat, il y a aussi la COP biodiversité et la COP désertification. Des décisions seront peut-être prises en ce sens. On suivra, nous, évidemment, au service environnement de RFI. C'est la fin de cette émission. Vous l'avez compris, merci à vous, Pauline Glaise. Merci à tous d'être venus participer à ce club. Merci à Caroline Fillette et Victor Hull. Demain, vous retrouvez Anne-Cécile Bras derrière ce micro pour la rediffusion d'une émission sur les réparties écologiques en milieu hostile. À suivre un autre jour.